Bon, bonjour, frères et sœurs. Ça fait un peu étrange là, d'être devant une salle presque vide. Nous sommes dans une période de stress pour certains. Certains sont moins stressés que d'autres, mais pour certains, c'est quand même une période de stress. Plusieurs d'entre nous, on a des vies qui sont un peu chamboulées, hein, virées en envers. Les enfants ne vont pas à l'école, les usines sont fermées même. Et certains sont plus à risque que d'autres aussi et peuvent éprouver certaines craintes. Et c'est un peu normal. Il y a plusieurs de nos projets qui sont annulés, des voyages annulés, des horaires qui sont modifiés, des revenus aussi qui sont diminués. Donc, certains peuvent même éprouver une certaine inquiétude face à une perte de revenus, éventuellement. Les activités sociales sont réduites. Donc, pour ceux qui ne voient pas souvent des frères et sœurs, qui souffrent un peu de solitude, mais ça vient s'ajouter à cette souffrance. Et ce n'est pas facile. Comment le Québécois moyen réagit à cette situation-là? Certains réagissent bien, mais d'autres moins bien. On a vu dans les reportages plusieurs comportements qui sont plutôt honteux. Certains dans les magasins ou même plus précisément dans les épiceries, c'est comme la loi de la jungle ou la loi du plus fort. Et certains même essaient de profiter de la situation même pour acheter des articles et les revendre à gros prix sur Internet, sur Kijiji ou sur eBay. C'est honteux. Chacun essaie de profiter de l'occasion. Des gens sont frustrés, avec raison souvent, mais vont se plaindre, vont critiquer les autorités. Tous ceux qui sont en position de prendre une décision, soit propriétaire d'un édifice, propriétaire d'une entreprise, au gouvernement, à la mairie, se font critiquer s'ils prennent la décision de cesser une activité, ou ils se font critiquer s'ils prennent la décision de la continuer. Dans les deux cas, ils sont les méchants. Mais ça prend un coupable lorsqu'on vit une situation mauvaise. Puis les quelques personnes qui ont été infectées par le coronavirus et qui ont, malheureusement, qui l'ont transmis à d'autres, sont pointés du doigt comme s'ils étaient des criminels. Donc on est prompt à agir d'une manière vraiment mauvaise. Mais nous savons que les chrétiens sont censés réagir d'une manière différente de la moyenne des gens ou de la foule. Sommes-nous vraiment différents? Face au stress, est-ce que notre réaction est meilleure? Est-ce que lorsque les gens nous regardent, et qui savent qu'on est des chrétiens, est-ce que notre témoignage est bon? Dans le récit qu'on étudie dans l'Évangile de Luc, on arrive à un moment, justement, où Jésus et ses disciples vont vivre une grande situation de stress. Et on va voir différentes réactions. Donc, c'est un texte qui est très à propos. Je suis étonné de voir à quel point Dieu concorde les choses et le Saint-Esprit a dirigé pour qu'on étudie ce passage-là aujourd'hui. Déjà, même le passage de la semaine passée que Jean-Luc Mambo nous a apporté était très à propos, mais celui de cette semaine l'est aussi. Et Jésus vient tout juste dans l'Évangile de Luc, au point où nous sommes rendus, vient de célébrer la Pâque avec ses disciples, prendre un dernier repas avec eux, ce qu'il avait, il avait hâte de pouvoir le faire avec ses disciples, un temps où il pouvait passer dans l'intimité, dans l'amitié. Ce qui est vraiment paradoxal, c'est que pendant ce temps-là aussi, se jouait toute une conspiration derrière le Seigneur. Et Judas allait conspirer contre lui et le livrer, le vendre. Et Jésus a institué aussi pendant ce repas la table du Seigneur, un mémorial pour lui, à prendre en mémoire de lui, en mémoire de son sacrifice. Et là aussi, Jésus avertit, après le repas, il avertit ses disciples des dangers qui allaient venir, de plusieurs choses qu'ils allaient vivre. Et on comprend que les avertissements nous sont adressés à nous aussi. Même 2000 ans plus tard, finalement, Jésus adressait des avertissements solennels à tous ses disciples de toutes les époques. Et ce qui est étonnant, c'est de voir comment les 11 disciples de Jésus, les 11 apôtres, n'étaient pas prompts à être des hommes différents des gens du monde. Alors que Jésus venait de les avertir, ou il venait de prendre un temps solennel, ils se sont disputés à savoir qui parmi eux était le plus grand. Donc, on voit que ça va prendre une intervention du Saint-Esprit pour transformer leur cœur. Mais on voit aussi que ce n'est pas facile d'être différent et de se comporter en tant que chrétien, disciple de Jésus. Et à la fin du repas, Jésus sort, après avoir chanté des cantiques avec ses disciples, il sort de la ville et il se rend au mont des Oliviers, avec ses disciples. C'est là où nous sommes rendus. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc 22. Nous lisons à partir du verset 39. Luc 22, 39 à 46. Et plus tard, on va lire aussi 47 à 53. Donc, deux sections. Mais on commence par la première, Luc 22, verset 39 à 46. Après être sorti, il alla, selon la coutume, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, et il se mit à genoux et il pria, en disant, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Puis il se releva de sa prière et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Donc, nous allons lire la suite plus tard. Donc, Jésus, pour passer ses derniers moments avec ses disciples, un dernier temps avant de connaître une grande souffrance, il se retire avec ses disciples au mont des Oliviers, plus précisément au jardin de Gethsémané, comme on apprend dans les autres évangiles. Luc, lui, ne souligne pas la particularité du jardin. Luc insiste plutôt sur le fait que Jésus retourne à la même montagne, au même endroit qu'il avait pris l'habitude d'aller à tous les soirs depuis qu'il se trouvait à Jérusalem. Peut-être même que dans toutes ses visites de Jérusalem, il avait pris l'habitude de se rendre au mont des Oliviers. Un endroit que lui et ses disciples connaissaient, un endroit idéal pour aller prier, un endroit qu'il connaissait. Mais aussi, et c'est peut-être pour ça que Luc le souligne, c'était aussi un endroit que Judas connaissait. Et Jésus savait que Judas avait pactisé avec les chefs religieux qui voulaient l'arrêter. Donc, évidemment, on voit que Jésus se rend dans un lieu que Judas connaissait. Donc, l'intention de Jésus, ce n'était pas de se cacher. Ce qui est étonnant. Pour quelqu'un qui lit ce récit pour la première fois, c'est étonnant. Jésus se retire, normalement et humainement, l'instinct de survie ferait en sorte qu'on voudrait aller se cacher. Mais pas Jésus. Jésus sait qu'il va être arrêté ce soir-là, cette nuit-là. Il sait qu'il va être humilié, puis torturé, même sauvagement, et tué, mis à mort. Pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas à sauver sa vie? Ça peut sembler étrange. Mais on le sait, lorsqu'on lit tout le récit, que s'il ne cherche pas à sauver sa vie, c'est parce qu'il la donne volontairement. C'est vraiment un sacrifice que notre Seigneur Jésus a fait. Le berger qui se sacrifie pour ses brebis, pour que ses brebis aient la vie sauve. C'est lui que les loups dévorent, que les lions dévorent. Donc, il doit faire, et même, il veut le faire, volontairement, ce sacrifice pour expier la faute, pour payer la dette des péchés de tous ceux qui allaient mettre leur confiance en lui. Et il dit à ses disciples, « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Donc, même dans cette nuit d'angoisse, on peut imaginer l'angoisse dans le cœur de Jésus. Jésus qui sait tout ce qui l'attend. Mais Jésus prend la peine de s'adresser à ses disciples pour leur dire, « Priez. » Il se soucie d'eux. On voit tout l'amour. Ça vient prouver vraiment son intention. Pourquoi il va se faire arrêter? Pourquoi il se laisse prendre, finalement? Et ce qu'il les exhorte à faire, c'est de faire appel à Dieu pour ne pas être placé en situation de tentation. Et si Dieu permet qu'ils soient en situation de tentation, mais que Dieu leur donne la force de passer à travers cette épreuve, qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne flanchent pas. Malheureusement, nous savons que Pierre va renier son maître dans les heures qui vont suivre. Mais le diable ne pourra pas garder son âme. Et Pierre va retourner à Jésus, va se repentir. Et même, il va attirer les autres disciples aussi à retourner à Jésus. C'est ce que Jésus avait prié. Il avait prié, on l'a vu la semaine passée au verset 32. Jésus a dit, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Non, c'est une dure épreuve où même les apôtres de Jésus qui ont marché avec lui pendant 3 ans risquent de flancher et de l'abandonner, de fuir. Donc, Jésus a prié pour eux et il les invite maintenant à prier dans le même sens que lui. Et c'est une situation finalement qui va se reproduire à toutes les époques, jusqu'à aujourd'hui. Jésus intercède pour nous, que notre foi ne flanche pas, que les élus restent accrochés au Seigneur. Mais il nous invite à faire cette même prière, à prier dans le même sens que lui. Demander à Dieu qu'il nous donne la force de passer à travers les épreuves. Nous ne connaissons pas l'avenir et nous ne savons pas à quel point la vie peut contenir de bons moments, comme des souffrances aussi. Mais Dieu le sait. Et Jésus nous invite à prier dans le même sens que lui, de demander à Dieu la force de passer à travers tout ce qui va arriver. Peu importe les événements qui vont nous frapper, que nous restions fidèles au Seigneur. Donc, Dieu garde ses élus. C'est une promesse qu'il fait à de nombreuses reprises. Mais ce n'est pas une chose qui se passe automatiquement, sans intervention. Dieu garde ses élus, mais il veut que ça soit en réponse à la prière de son Fils Jésus, qui intercède pour nous, et à la prière des élus eux-mêmes qui demandent à Dieu de les garder. Donc, finalement, nous prions selon la volonté de Dieu. Donc, après avoir invité ses disciples à prier, et on s'imagine qu'ils se sont mis à prier, Jésus s'éloigne, pas très loin, à une distance d'un jet de pierre. Donc, on comprend probablement que les disciples pouvaient toujours le voir, l'entendre même peut-être. Ça devait être une scène très émouvante de voir leur maître si angoissé. Et Jésus se met à genoux. On comprend qu'il se prosterne devant Dieu, son Père, pour le supplier. Et ce qu'il demande à Dieu, c'est que cette coupe s'éloigne de lui. La coupe de la souffrance qu'il va vivre, qu'il s'apprête à vivre, et la coupe de la colère, du jugement de Dieu. Alors que Jésus va porter le poids des péchés du monde sur lui, et que Dieu va déverser sa colère sur lui, qu'il soit puni à notre place, c'est une coupe qui est très dure. Et Jésus la voit à l'avance. Et il demande au Père que si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de lui, qu'il n'ait pas à subir cette dure souffrance. On lit dans Hébreux 5, verset 7, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications. » Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je ne sais pas si c'était l'un des disciples qui était présent, qui a assisté à cette scène, ou on lui a reporté, mais c'est le Saint-Esprit qui nous le confirme, que Jésus a crié, a pleuré dans les jours de sa chair. Il a souffert. Il savait ce qui s'en venait. Mais, en même temps, il reste totalement, entièrement soumis à la volonté de Dieu. Même lorsqu'il demande que cette coupe s'éloigne de lui, il dit, « Si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi. » Et il ajoute que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Donc, même dans sa demande intense, là, dans ses instants de prière, ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Et par là, il a appris à obéir, même à passer cette dure épreuve, à obéir à son Père, à accomplir sa volonté, par toutes les souffrances qu'il a connues. Il a appris cela, il a expérimenté en tant qu'être humain. Toujours dans Hébreux 5, verset 8, on lit, « Il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Donc, finalement, il nous montre la voie. Et il n'y a aucune souffrance qu'on peut connaître sur cette terre auquel Dieu ne peut pas compatir. Il a connu les mêmes souffrances que nous pouvons connaître. Et toute cette angoisse, ce stress extrême qu'il a vécu, Jésus l'a subi pour nous. C'est ce qui est étonnant. C'est peut-être ce qui a contribué à le faire persévérer jusqu'à la fin. Non seulement de vouloir obéir à son Père, mais aussi vouloir nous sauver par amour pour nous qu'il a fait cela. On lit dans Isaïe 53, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Donc finalement, c'est pas seulement, il les a pas seulement subies pour nous, il les a subies à cause de nous. « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » On lit plus loin, « Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et déjà, ça le frappait à cette heure-là. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Tout un sacrifice, tout un geste d'amour. Et Dieu envoie un ange pour fortifier Jésus. C'est seulement dans l'évangile de Luc qu'on a ce détail-là. Dieu envoie son ange pour le fortifier. Donc le message de son père, c'est donc « J'ai entendu ta prière, je vois ta détresse, je suis avec toi, je vais vivre cela avec toi, je ne vais pas te lâcher, je vais t'assister pour que tu passes cette épreuve sans flancher. Je te revais de ma force, je ne t'abandonnerai pas non plus dans la mort. » Jésus sait qu'au terme de ses souffrances, la dernière souffrance qu'il va subir, c'est de mourir, de rendre son âme. Mais il sait qu'alors qu'il sera humainement totalement impuissant, Dieu va le ressusciter, va le relever. Il est confiant de cela. Et ce geste de tendresse d'envoyer un ange pour son fils confirme cela, l'amour du Père pour son fils. Mais en même temps, si on y pense, si Dieu envoie un ange pour fortifier Jésus, c'est en même temps une réponse à la demande de Jésus que si c'est possible d'éloigner cette coupe. Si Dieu lui envoie un ange, en même temps il lui dit « Non ». La coupe ne s'éloignera pas. Tu vas devoir passer cette épreuve. Donc, l'ange va être là, vient le fortifier, mais en même temps que Jésus reçoit cette force, il a comme une confirmation qu'il va devoir passer cette épreuve. Et il renouvelle sa prière avec encore plus d'instance, même dans une grande angoisse. Le mot angoisse, même dans le mot original en grec, c'est agonia, qui est donné en français, le mot agonie. Donc, une angoisse très profonde, un stress où tout le corps là, est concentré vers une menace mortelle, au point où du sang qui est contenu dans ses cellules de la peau sort avec sa sueur. Donc, c'est comme s'il sue des grumeaux de sang. C'est un phénomène très rare qui a été observé chez certaines personnes aux prises avec l'hématidrose. Quand ces personnes-là sont soumises à un stress très, très intense, du sang peut sortir des pores de la peau. Je ne sais pas si c'est ce phénomène-là que Jésus a connu ou si c'était vraiment unique dans son cas. Mais on ne peut pas douter de la situation de détresse dans laquelle il se trouvait. En réalité, personne comme Jésus n'a jamais su avec une aussi grande précision toutes les souffrances qu'il allait subir. Quand on craint la mort, c'est une menace, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Mais Jésus savait tout dans son omniscience. Il savait à quel point il allait souffrir physiquement, mentalement, émotionnellement et même spirituellement, alors que son père allait le voir chargé de péché et qu'il allait perdre cette relation intime avec son père pendant un temps. Mais même dans cette angoisse terrible, ce qui est touchant, c'est qu'il se relève et il retourne voir ses disciples pour les fortifier. Et il les trouve endormis de tristesse. Peut-être c'est la peine de voir leur maître souffrir autant qu'il les a épuisés. Ils se sont assoupis. Et Jésus les réveille et les exhorte encore à prier. L'heure est grave pour qu'ils ne tombent pas en tentation. Beaucoup de gens connaissent cette angoisse, peut-être pas une angoisse terrible comme celle de Jésus. Mais on peut connaître une certaine angoisse, une inquiétude, une crainte face aux choses qui se passent avec la menace du coronavirus. C'est une chose normale, c'est une émotion humaine normale que le Seigneur Jésus a lui-même ressenti. Donc, à la base, c'est une émotion qui est normale et toute humaine. Et la bonne réaction dans cette angoisse-là, c'est quoi? C'est de se tourner vers Dieu, finalement. C'est toujours la bonne solution. Se tourner vers Dieu, prier, lui demander son assistance. C'est ce que Jésus a fait et il n'a jamais péché. Même dans ses demandes pour que cette coupe soit éloignée de lui, même dans sa grande angoisse, il n'a pas péché. Jamais qu'il n'a laissé place au doute face à la volonté de Dieu, face à l'amour de Dieu ou à la justice de Dieu. Il n'est pas tombé dans l'inquiétude, dans la frustration, dans le murmure, dans le chialage, qu'on pourrait dire en québécois. Il n'est pas tombé dans la rébellion non plus. Toute pensée, toute parole ou tout acte qu'il aurait fait dévier du plan de Dieu aurait été un pas dans la rébellion. Et Jésus ne l'a pas fait. Il est resté pur. Mais nous pouvons facilement tomber dans le péché. Nous pouvons facilement tomber dans le doute, dans l'inquiétude, dans chercher des solutions autres que de nous tourner vers Dieu. Ne pas faire confiance en Dieu. Et surtout, ce qui est très facile pour nous, c'est de murmurer, de se plaindre. On cherche un coupable et on se plaint comme si on vivait une injustice. Et dans un sens, à chaque fois qu'on se plaint d'un malheur qui nous frappe, c'est à Dieu qu'on se plaint. Parce que c'est lui qui est au contrôle de tous les événements. Et on ose se plaindre à Dieu, finalement, si on dit qu'on vit une situation injuste, on est en train de dire que Dieu est injuste. Et cela, en soi, c'est montré comme étant un péché dans la Bible. Nous suivons les recommandations de Jésus de prier constamment pour ne pas tomber dans la tentation, surtout en période de stress. Et Dieu entend nos prières, on peut en être sûr. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va manifester sa présence pour nous fortifier. Il est avec nous. Le Seigneur Jésus a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous dans toutes les détresses qu'on peut vivre. Et Dieu peut entendre nos prières et il peut entendre nos demandes et dire oui. Il peut nous protéger de ce virus, il peut nous faire sortir collectivement, rapidement, de cette contagion, de cette pandémie. Et il peut nous guérir, il peut subvenir à tous nos besoins. Et c'est une très bonne chose de prier en ce sens, prier pour nos besoins. Jésus l'a fait. Donc, prier que Dieu nous donne son secours. À chaque fois que nous prions Dieu pour qu'il nous secoue, nous témoignons par là que nous avons foi en lui. Nous croyons qu'il est en parfait contrôle et qu'il peut agir. Mais c'est possible aussi que Dieu nous permette de rester dans l'épreuve pour un temps. C'est sa volonté qui va s'accomplir. Mais il sera toujours présent et toujours en contrôle, on n'a pas à en douter. Et il peut nous fortifier pour qu'on passe cette épreuve-là sans flancher. Et ça devrait certainement faire partie de nos requêtes, peut-être même la première requête, qu'on reste fidèle au Seigneur lorsque l'épreuve arrive. Et c'est au moment où Jésus a exhorté ses disciples à prier, et sûrement qu'il leur a expliqué pourquoi, au moment où il les exhortait à nouveau à prier, c'est à ce moment-là que la foule arrive pour l'arrêter. Donc, continuons notre lecture au verset 47, toujours dans Luc 22, verset 47. Comme il parlait encore, voici qu'une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Et il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et il dit, « Tenez-vous-en là. » Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. Mais j'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. » Mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. Donc, pour Jésus, on essaie de s'imaginer ce qu'il a pu vivre, mais en plus de la douleur, de l'angoisse, s'ajoute la douleur d'être trahi par un ami, par un collègue d'évangélisation même, quelqu'un qui l'a formé, quelqu'un qui avait la confiance de ses frères, même pour tenir la bourse du groupe. Et cet homme-là, aucun des 11 autres n'aurait pu croire que c'était lui le traître. Il trahit Jésus, il trahit son maître. Et c'est pour ça que Luc prend la peine de dire Judas, l'un des 12, l'un des siens, un frère de Jésus qui l'a trahi. Judas arrive à la tête de ce groupe, de cette foule, en les conduisant directement à Jésus. Et il s'avance et lui donne un baiser. Normalement, un baiser, c'est un signe d'affection. Peu importe dans quelle culture on se trouve, c'est un signe d'affection, d'amitié, une salutation chaleureuse. Quelle hypocrisie! Jusqu'à la fin, il manifeste cette hypocrisie-là d'être l'ami de Jésus. Mais Jésus le voit bien et il l'avertit. C'est avec un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Celui que tu livres, c'est le Fils de l'homme. C'est Dieu fait homme venu sur terre. C'est le roi, celui, le descendant de David, celui que Daniel a annoncé. Celui qui accomplit toutes les prophéties annonçant la venue du Messie, le Christ. C'est lui que tu livres. C'est comme si Jésus lui faisait un dernier avertissement avant qu'il subisse le jugement qu'il mérite. mais il ne répond pas. C'est plus tard qu'il le regrettera, mais à ce moment-ci, il n'intervient pas et finalement, il regarde Jésus se faire arrêter. Parce que par ce baiser, finalement, il identifiait qui était Jésus avec certitude et les soldats ont pu arrêter Jésus. La foule qui suivait Judas était formée de sacrificateurs, de gardes du temple avec leur chef, des anciens de la ville, donc toute une délégation qui était là. En plus, on apprend dans l'Évangile de Jean qu'il y avait une cohorte. Donc, je suppose que c'était une cohorte de soldats romains. Donc, toute une garnison là, qui arrive, toute une foule avec des épées, des bâtons, comme s'ils venaient arrêter toute une bande de brigands. Et les disciples, voyant ça, ils demandent à Jésus, « Est-ce qu'on doit intervenir? Est-ce qu'on sort nos épées? Est-ce qu'on se bat? » Et l'un d'eux, qui n'attend même pas les consignes de Jésus, prend son épée et frappe le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupe l'oreille. Ça ne devait pas être très beau à voir. Mais Jésus intervient. Il dit, « C'est assez, là. Tenez-vous-en là. » Et il guérit le serviteur. Encore un geste d'amour dans un moment de grande détresse, un moment de grand stress, là, où on réagit selon nos réflexes habituellement. Et Jésus, son réflexe, c'est un acte de bonté, de secours pour son ennemi, celui qui vient le chercher pour le mettre à mort. Donc, quand Jésus a dit, a enseigné sur le sermon sur la montagne, quand il a enseigné, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent », il était sérieux. Ce n'était pas seulement une hyperbole, une exagération. Littéralement, Jésus a enseigné, « Aimez vos ennemis », et il l'a fait. Si les disciples avaient combattu ceux qui venaient s'en prendre à Jésus, s'ils avaient sorti leurs armes pour se battre et que ça arriverait en bataille sur le mont des Oliviers, est-ce qu'ils auraient eu finalement une attitude différente de ceux qui venaient s'en prendre à Jésus? Ils auraient agi pareil comme eux finalement. Mais les disciples de Jésus sont censés être une lumière dans les ténèbres, ne pas réagir aux événements comme ceux qui ne sont pas avec Jésus, comme les non-croyants. Les disciples de Jésus ne sont pas censés répondre à la violence par la violence, à la haine par la haine, ou à des accusations par des contre-accusations, ou répondre à l'injustice par une autre action injuste. Les disciples de Jésus sont censés être la lumière dans les ténèbres. Et cette intervention-là, où Jésus dit « Non, c'est assez, tenez-vous-en là », lorsque l'un a sorti son épée, mais cette intervention-là nous confirme que Jésus, finalement, lorsqu'il avait parlé dans le passage précédent aux disciples de se procurer des épées, on voit que c'était vraiment dans un langage figuré. Ce n'était pas littéralement « prenez les armes pour vous défendre ». On comprend que c'était au langage figuré. Et plus tard, tous les passages dans les épîtres du Nouveau Testament qui nous parlent de combattre sont dans le langage figuré aussi. Et l'épée, finalement, que Jésus nous invite à prendre, c'est la parole de Dieu. C'est de se confier, mettre toute sa confiance dans les promesses de Dieu que Dieu nous a faites, dans ses commandements qui sont bons. Toute la parole de Dieu est bonne. Dans Hébreux 4:12, on lit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » Donc oui, les disciples ont besoin d'armes pour se défendre. Mais ils ont besoin d'armes pour combattre les forces spirituelles. Et c'est avec des armes spirituelles qu'on combat ces forces. Avec la parole de Dieu. Éphésiens 6:17 dit « Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Nous avons certainement besoin de cette arme. Et les chrétiens, j'en suis convaincu, qui réussissent à passer à travers les épreuves et persévérer jusqu'à la fin, c'est parce qu'il ne se relâche pas dans la lecture de la parole de Dieu. Jésus, après avoir guéri cet homme, il s'adresse à la foule. Il dit, « Vous venez m'arrêter avec des épées et des bâtons, en grand groupe, comme si j'étais finalement un dangereux criminel. Pourtant, j'étais avec vous tous les jours dans le temple. » Si Jésus était vraiment quelqu'un qui sème le désordre et qui est dangereux, pourquoi ils ont attendu la nuit en cachette pour l'arrêter? Vraiment, ça montre l'hypocrisie des chefs religieux, leurs mauvaises intentions. Et ils savaient très bien que Jésus n'est pas du tout dangereux. Et même le geste qu'il a fait en guérissant ce serviteur le montre. mais ils n'ont pas changé leur plan, ils l'ont quand même saisi. C'est toute une injustice. Moi, personnellement, il y a des péchés qui vont me choquer moins. C'est malheureux, parce qu'avec les années, on finit par devenir un peu insensible à différentes sortes de péchés, surtout les péchés qu'on commet soi-même. C'est triste, là. Mais il y a un péché qui me touche personnellement, là, c'est de voir un mensonge qui produit une injustice envers quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, là, mais ça vient me chercher. Et même de relire ce passage-là, il y a comme un sentiment de colère, là. Mais je ne suis pas seul. Je suis sûr que vous aussi, vous éprouvez de la colère face à le mensonge, l'injustice. Et Dieu même a ça en horreur. On lit dans l'Ancien Testament qu'il a défendu de porter un faux témoignage contre quelqu'un. C'était aussi grave que de commettre un meurtre ou l'adultère, là. C'est une chose condamnée très sévèrement. Et Jésus souligne, vous ne m'avez pas arrêté au temple, dans un sens aussi parce que vous en avez été incapable. L'heure n'était pas arrivée. Normalement, vous arrivez là avec une grande force et peut-être vous allez vous féliciter de m'arrêter. Mais en réalité, c'est parce qu'auparavant, vous en étiez incapable. Dieu ne l'avait pas permis. L'heure n'était pas arrivée. Donc, ils étaient incapables non seulement parce que la population mettait une pression, parce qu'ils aimaient entendre Jésus, mais aussi parce que Dieu avait décidé que ce n'était pas encore le moment. Le temps déterminé n'était pas arrivé. La preuve que c'est cette pensée-là, c'est qu'il ajoute, « Mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. Maintenant, si vous pouvez m'arrêter, si vous avez ce pouvoir-là, c'est parce que le pouvoir vous a été donné. C'est maintenant l'heure qui a été déterminée, décrétée. L'heure du pouvoir des ténèbres. Ils n'en sont pas conscients, mais finalement, ils servent les forces ténébreuses et les forces du mal. Ils servent Satan, qui a soif de mort et de destruction. Pourtant, ils le font au nom du temple et de l'Éternel. Mais ces forces des ténèbres-là, aussi puissantes qu'elles puissent être, sont soumises à Dieu. Elles n'ont pas pu agir avant le temps déterminé. Dieu ne perd jamais le contrôle. C'est Dieu qui permet à ces forces du mal d'agir, à Satan et à ses démons, à toutes les autorités dans les lieux célestes. C'est Dieu qui leur permet d'agir, mais c'est Dieu qui leur interdit d'agir aussi. Il peut les tenir en laisse. Rien ne sort de la volonté de Dieu. Le Créateur reste constamment souverain sur sa création et tout sert à l'avancement de son plan, même les malheurs, même les événements tragiques, même ce qui peut causer de grandes angoisses et du stress. Si notre Maître Jésus a subi cette humiliation d'être arrêté devant ses amis comme un criminel, bon, ils n'ont pas mis des menottes, ça n'existait pas à l'époque, mais ils l'ont emmené vraiment comme un vulgaire criminel avec les gardes. C'est humiliant. Il a été traité comme un ennemi à la nation. Mais si notre Maître a subi cela, nous ne devons pas nous étonner si un jour nous subissons cela. C'est même une chose normale. Si Christ a été humilié, haï, ceux qui le suivent, les chrétiens seront humiliés, haïs, victimes d'injustice, persécutés. Plusieurs, même en ce moment, essaient de convaincre le gouvernement de faire déclarer la Bible comme étant un texte haineux. Et ce qu'ils souhaitent, c'est même que ça devienne illégal d'en faire la propagande, de proclamer la parole de Dieu. Finalement, ce que nous expérimentons aujourd'hui, d'être obligé, ce n'est pas une persécution, là, c'est à cause du virus, mais d'être obligé d'être réunis dans les maisons, ne pas pouvoir se réunir en grande assemblée. Peut-être que ça nous prépare à des temps semblables un jour où nous ne pourrons pas nous réunir en grande assemblée. Peut-être même qu'on se fera interdire la possibilité de diffuser en ligne sur YouTube. Qui sait? Mais si le risque aujourd'hui de nous refroidir est là, à cause de la situation, par manque de communication fraternelle, mais le risque de se refroidir sera immensément plus grand lorsque notre liberté sera menacée, lorsque notre sécurité sera menacée. Qui d'entre nous vont persévérer jusqu'à la fin? Êtes-vous de ceux qui allez persévérer jusqu'à la fin à travers les épreuves? Ou de ceux qui vont délaisser la foi lorsque ça deviendra trop difficile? Allez-vous être de ceux qui allez rester fidèles au Seigneur Jésus? Peu importe ce qui arrive. Comment ne pas succomber à la pression dans ces temps d'angoisse? mais en suivant le modèle de Jésus. Regardons dans tous les détails comment il a agi, comment il a parlé, comment il s'est comporté. C'est le modèle à suivre. On va être sûr de se diriger sur la bonne voie et de ne pas succomber à la tentation. Mais pour en avoir la force, c'est beau de le savoir, mais pour être capable de le faire, mais c'est par la prière. On prie le Seigneur Dieu qui, par la force de son esprit en nous, qui nous rende persévérants. Et Dieu peut le faire. Il n'y a aucune tentation qui va être trop forte pour que Dieu ne puisse pas nous donner un moyen d'en sortir. Mais pour cela, il faut prier. Demandons à Dieu la force de ne pas tomber dans la tentation de commettre un péché, et même peut-être le péché grave d'abandonner la foi. Alors que des gens se plaignent de leur sort, même si ça a l'air jusqu'à un certain point correct, mais adoptons le réflexe de ne pas nous plaindre, d'accepter même avec joie l'épreuve qui nous est soumise, de considérer avec joie cette épreuve-là, comme une occasion même de se tourner vers Dieu, de compter sur Dieu, de se resserrer les rangs aussi entre nous, de s'entraider. Alors que pour certains, c'est la loi de la jungle, chacun pense à soi-même, la loi du plus fort, l'instinct de survie fait en sorte qu'on ne pense même pas aux besoins des autres, la priorité, c'est soi-même. Les chrétiens devraient penser aux autres, même saisir l'occasion pour être généreux. Quelqu'un n'a plus de papier de toilette, on donne du papier de toilette. Quelqu'un n'a plus de nourriture, on donne la nourriture. Quelqu'un est en urgence, on peut même le laisser passer devant nous dans la file. Ça a l'air comme d'une chose impensable de laisser passer quelqu'un dans la file au magasin, mais un chrétien n'est pas égoïste et il est prêt à souffrir pour le bien de son frère ou même pour le bien de son ennemi. Alors que pour certains, c'est finalement chacun pour soi, on devient plus individualiste que jamais. Les chrétiens, mais restons unis. Utilisons même cette occasion pour renforcer nos liens, d'être encore plus en communion, de prier les uns pour les autres, de se téléphoner, de se visiter, de s'encourager. Alors que certains cèdent à la peur, à la panique, comme s'ils ne savaient pas qu'il y a un Dieu qui contrôle tout, les chrétiens devraient rester, même si on peut éprouver une grande angoisse, comme le Seigneur Jésus, mais on reste confiant et on ne doute jamais de l'amour de Dieu et de sa capacité à rester en contrôle de tout. On ne sombre pas dans la panique, dans la peur. On trouve notre réconfort en Dieu. 1 Pierre 5, 6 à 11 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Donc faisons comme Jésus et courbons-nous devant Dieu, mettons-nous à genoux, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi. Et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen.